Le thème de cette convention, c'est la destinée, l'identité, le miracle. Nous avons parlé sur la destinée, sur l'identité de chaque individu, l'identité de l'Église aussi. Et nous voulons parler sur le miracle parce que nous croyons que il y a un cri qui sort du cœur de nombreuses personnes, de nombreux enfants de Dieu aujourd'hui. Et ce cri, c'est « Donnez-nous plus que des paroles ». Il n'est pas dans votre cœur ce cri ? Merci Seigneur pour tous les bons messages, merci pour tous les bons enseignements, mais on a envie quand même de voir ta puissance déversée comme c'est promis dans l'Écriture qu'elle devait se déverser. Fais-moi, c'est mon cri. Et depuis que nous avons démarré ces séminaires, nous voyons de plus en plus de miracles s'accomplir, nous croyons que ça va aller de vague en vague et que Dieu va faire de plus en plus une démonstration d'esprit et de puissance, non pas pour faire un one-man show, mais comme l'a dit Michael, pour démontrer son amour. Amen. Dieu aime sa créature, c'est pour ça qu'il veut guérir l'aveugle, c'est pour ça qu'il veut que le boiteux marche, il veut que celui qui a le sida soit guéri. Et il n'a pas changé, nous le savons tous, c'est pour ça que nous sommes assemblés en son nom aujourd'hui, n'est-ce pas ? Amen. Vous pouvez être promu à la plus grande destinée dans l'appel de Dieu. Si vous êtes malade, par exemple, ou si vous n'avez pas d'argent, eh bien, cette destinée, elle va être tuée dans l'œuf. Vous allez être stoppé dans votre course, peut-être tué par l'adversaire. Vous êtes peut-être appelé comme Michael à un appel de missionnaire, mais pour partir à Madagascar ou en Afrique, il faut acheter des billets d'avion. Pour acheter des billets d'avion, il faut de l'argent, n'est-ce pas ? On n'y va pas en pédalo en Afrique. Donc nous avons plusieurs batailles, c'est pour ça que j'ai mis mes pantalons militaires, je crois au signe prophétique. Nous avons plusieurs batailles à livrer. Il y a la bataille pour la guérison divine, car Jésus était connu comme le Jésus qui enseignait, prêchait et guérissait les malades. Donc nous ne pouvons faire l'économie de la guérison divine. Nous ne pouvons nous contenter d'avoir un témoignage tous les 6 mois d'une grande guérison et un témoignage qu'on va utiliser pendant 10 ans. Moi, j'ai dit au Seigneur, je refuse de faire ces séminaires et de devoir donner des exemples qui datent d'il y a 10 ans ou qui sont dans le livre ou la biographie de tel ou tel serviteur de Dieu ou qui sont arrivés aux États-Unis lors de tel réveil ou en Afrique. Dieu est le même en France qu'en Afrique, aux États-Unis. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Je lui dis, Seigneur, je veux des exemples qui datent d'aujourd'hui, provoqué par l'huile fraîche que tu répands aujourd'hui dans nos séminaires. Et j'ai des exemples à vous donner aujourd'hui et je m'en réjouis. Et j'en aurai de plus en plus car c'est la meilleure façon de provoquer la foi chez l'auditoire pour que les gens reçoivent leur propre miracle. Amen. Amen. Alors nous avons plusieurs batailles. Une c'est la bataille pour la guérison. D'autres c'est la bataille pour établir des relations saines entre nous. Entre les ministères qui doivent travailler ensemble sans que le diable les fasse s'entretuer au bout de quelques mois de collaboration. Il y a une autre bataille, c'est la bataille pour les finances aussi. Vous avez remarqué ? Regardez, on va faire un petit sondage. Qui a besoin de la guérison divine ? À moins que vous l'ayez déjà reçue. Vous avez besoin de toucher du doigt la guérison de Dieu. Ok. Vous pouvez baisser votre doigt, vous avez besoin d'un miracle dans ce domaine-là. Qui a besoin d'un miracle financier ? C'est là. Nous avons besoin que Dieu agisse dans ce domaine-là aussi. Ça ne suffit pas le domaine de la guérison, d'accord ? Et parfois même il s'agit qu'il semble qu'il est plus facile d'être guéri dans son corps que de prospérer. Et je voudrais partager des principes ce matin qui permettent de libérer le miracle dans notre vie. Qui est-ce qui pouvait bien faire avec un bon paquet d'argent là, sur son compte en banque là ? Pas juste pour se vautrer dans des choses inutiles et secondaires, mais pour pouvoir déjà aider les autres. Voilà, vous savez, quand on a une bonne voiture, on peut prendre l'autostoppeur. Quand on n'a pas de voiture, on fait de l'autostop. Hein. Donc Dieu veut que nous prospérions. Alors on a utilisé parfois ce verset de l'Écriture où il nous est dit que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Est-ce que c'est l'amour de l'argent qui est la racine de tous les maux ? Oui. Parce que beaucoup de gens utilisent ce verset en disant « l'argent est la racine de tous les maux ». L'argent n'est pas la racine de tous les maux. D'ailleurs, le verset dit que l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. elle n'est pas la racine de tous les mots. Il y a plusieurs racines de tous les mots. Il y a une autre racine de tous les mots, vous savez. Quelle elle est? C'est le manque d'argent. Vous avez remarqué que le manque d'argent crée beaucoup de problèmes. Je ne pense pas que les enfants qui sont oppressés en Amérique du Sud et qu'on fait travailler dans des mines ont un problème d'amour de l'argent. Par contre, je suis sûr que eux et leur famille ont un autre problème, c'est le manque d'argent. Celui qui manque d'argent, au bout d'un moment, il se soumet à celui qui aime l'argent et qui profite des autres. Donc le manque d'argent, c'est une racine aussi de tous les maux. Vous êtes d'accord avec moi? Et les généraux que Dieu suscite dans ces temps, les hommes et les femmes qui se lèvent pour faire avancer le royaume de Dieu et vaincre dans la dernière bataille des derniers temps, doivent être des hommes et des femmes qui savent faire venir l'argent. Ok? Et qui doivent apprendre à le gérer. C'est pour ça que la Bible nous dit que le Seigneur veut que nous prospérions comme prospère l'état de notre âme. C'est dangereux de prospérer au-delà de la prospérité de notre âme. C'est pourquoi nous voyons parfois dans les églises des gens être bénis financièrement et tous un héritage, et puis ils le dilapident parce qu'ils perdent les pédales en quelques jours. Ils n'ont jamais eu une somme comme cela entre les mains, mais ils n'ont pas la sagesse pour la gérer. Donc prions que Dieu nous fasse prospérer, mais proportionnellement à la prospérité de notre âme, c'est-à-dire de notre caractère, de notre capacité à gérer, de notre capacité à discerner. Et réalisons une chose aussi, c'est que la bénédiction, comme l'autorité, comporte une responsabilité. Je suis béni parce que Dieu m'aime, bien sûr, il veut remplir mon frigo, il veut que j'ai une bonne voiture, il veut même que j'ai une piscine, alléluia! Mais je suis béni pour bénir aussi. Amen. Pour faire une part dans ma bénédiction, pour bénir d'autres personnes. Et ça, c'est une bonne prière à faire. Seigneur, si tu me bénis, calculez déjà ce que vous allez faire d'une bonne part de ce que vous allez recevoir pour bénir d'autres personnes. Et Dieu, en voyant ce genre de prière, il dira, mais cette personne, je peux la bénir. Parce qu'elle n'est pas là pour avoir son petit club en tant que chrétien. Bénis-moi, 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 moi et moi seul. Hello? J'ai déjà fait la liste de tout ce que je vais m'acheter. Fais deux listes. De tout ce que tu vas t'acheter, Dieu il n'a rien contre, et de tout ce que tu vas acheter à d'autres personnes. Et peut-être achète-leur les mêmes choses. Parce que la Bible dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Pourquoi faire une seule liste? Tu veux acheter des pantalons? Oui, Dieu veut que tu aies des pantalons. Tu n'as pas à culpabiliser en achetant des super pantalons. Amen. Mais prévois d'en acheter pour quelqu'un d'autre aussi.
Amen.
Et à lui, ne lui achète pas des pantalons de moins bonne qualité que ce que tu t'achètes à toi. Parce que la Bible dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà un facteur qui permet à Dieu de nous bénir. Je me rappelle un jour, une collecte avait été faite dans une église, et une personne était allée chercher tous les habits rapiécés qu'elle avait. Elle les avait donnés pour la collecte, pour les missionnaires. Et dans la nuit, elle a eu une vision, Jésus lui apparut, et Jésus, il était en haillons. Elle a dit, mon Seigneur, comment se fait-il que tu apparais dans un tel état? Le Seigneur lui a dit, je me suis mis ce que tu m'as donné à me mettre. Tout ce que nous faisons aux autres, c'est à Jésus que nous le faisons. Okay. Quand il apparaît à Paul, il lui dit pas, Paul, pourquoi tu persécutes mes enfants? Il lui dit, pourquoi tu me persécutes? Tous les gens qui vous font du mal, ils font du mal à Jésus. Et chaque fois que vous faites passer les autres au dernier rang, c'est Jésus que vous faites passer au dernier rang. Donc, Dieu n'a rien contre l'argent. La Bible dit que l'or et l'argent lui appartiennent. Ça peut être un cadeau du diable, mais ça peut être un cadeau de Dieu aussi. Mais Dieu ne veut pas le mettre dans n'importe quelle main. Dieu veut le mettre entre les mains de personnes qui vont savoir le donner. Allô? Alors, première question à se poser, est-ce que je veux en avoir plus simplement par égoïsme? Simplement penser à élever mon niveau de vie, et je le répète, Dieu n'a rien contre, il est même pour. Où est-ce que je veux en avoir pour faire, en priorité, avancer le royaume de Dieu? Amen. Permettre que l'évangile soit annoncé. Parce que l'argent libère les personnes. Il y a un proverbe qui dit qu'à l'abri de l'argent, justement, on est abrité. Il ne doit pas dire ça comme ça. Ok? Vous avez vu dans ce monde, les hommes d'affaires, ils ont plus de pouvoir que les présidents. Ils mènent les présidents par le bout du nez, les hommes d'affaires. Hello? Les nouveaux généraux de Jésus-Christ doivent être des personnes qui savent faire venir l'argent. Amen. Mais il doit le faire venir pour le donner, pas pour le garder. Parce que lorsque Jésus reviendra, de toute façon, ton compte en banque ne te suivra pas là-haut. Sur le chemin de notre destinée, nous avons besoin de miracles. Qui a besoin de miracles ici? La Bible dit aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Pourquoi est-ce que notre miracle ne serait pas déclenché aujourd'hui? Ce matin? Et une chose qu'on va apprendre ce matin, ou qu'on va réaliser, c'est qu'un miracle arrive rarement, simplement parce qu'on l'attend. Vous avez remarqué, on connaît tous des personnes, même qui ont confessé, par ses mères, je suis guéri, Dieu pourvoit tous mes besoins, mais le miracle n'arrive pas pour autant. C'est important d'attendre un miracle, même c'est une attitude de foi que d'attendre un miracle, il faut s'attendre chaque jour à un miracle. Mais le seul fait d'attendre un miracle ne le fait pas venir. Et nous connaissons tous des personnes qui ont attendu un miracle toute leur vie, un miracle qui n'est jamais venu. Hello? Parce qu'un miracle, ça se produit. C'est ce que nous voulons apprendre ce matin. Je suis donc l'instrument de mes miracles. Et la responsabilité n'est pas sur Dieu seulement. Le premier point qui conduit au miracle, d'abord c'est la faim et la soif de Dieu, de sa présence et de sa parole. Et je me réjouis parce qu'on sent qu'il y a la faim et la soif de Dieu dans ce séminaire. Amen. Venez pas pour faire de la figuration, vous venez pour louer le Seigneur. Amen. Ça se sent. Vous savez, quand il y a la foi dans un lieu, ça se sent. Quand il n'y est pas, ça se sent aussi. Je tiens à vous rassurer. Le prédicateur, il commence à dire, bon, ça et ça, je ne vais pas le dire parce que ça ne va pas passer, ça non plus. Lorsque Jésus a nourri 5000 hommes avec 5 pains et 2 poissons, il a vu que les gens qui sont venus l'écouter n'ont pas amené assez à manger avec eux parce qu'ils avaient faim de ses paroles, ils n'ont pas calculé. D'ailleurs, ils n'étaient même pas sûrs qu'ils allaient rester plus que le temps d'une réunion. Mais c'était tellement passionnant d'entendre parler Jésus que 3 jours après, ils étaient encore là. Parfois, quand on a des réunions, les gens pensent déjà à 11h au poulet qu'ils vont manger à midi et demi. Et là, ils ne pensaient pas au poulet. Ils avaient faim et soif des paroles de Jésus. Et qu'est-ce qu'il leur dit Jésus? Ben, vous êtes des insensés quand même. Vous êtes des chrétiens qui manquaient de maturité. Vous auriez pu penser à amener à manger avec vous. Non, il est ému de compassion. Il aime Jésus que parfois on se mette dans les ennuis à cause de lui. Pour qu'il ait le plaisir de Père de nous en sortir. Parce que c'est une bonne motivation pour lui, la faim et la soif de sa parole. Amen. Si c'est à cause de lui qu'on s'est mis dans les ennuis, en tant que digne père, il se doit de nous sortir des ennuis. Alors il est ému de compassion pour cette foule, et là il fait un miracle. Et toute la foule est nourrie. C'est intéressant parce que contrairement à des tas de chrétiens bien intentionnés, il ne les a pas taxés d'insensés, d'inconscients qui sont venus l'écouter dans le désert sans apporter assez à manger. Voyez-vous, on ne donne pas à manger à quelqu'un qui n'a pas faim, ni à boire à quelqu'un qui n'a pas soif, et quelqu'un qui n'a pas envie de voir la gloire de Dieu manifestée ne la verra pas se manifester. La Bible dit que sont heureux ceux qui ont faim et soif des choses de Dieu. Matthieu 5, 6. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Quelqu'un qui a faim de la parole et de la présence de Dieu, vous savez ce qui se passe dans la présence de Dieu? Il recevra, à un moment donné, une parole personnelle de Dieu. Le miracle, c'est assez simple dans la théorie. Ça consiste à apprendre à se placer régulièrement dans la présence de Dieu, dans laquelle le Saint-Esprit va pouvoir nous conduire. C'est-à-dire nous donner des paroles qui ne sont pas le logo à l'état cru, qui sont la parole réma, c'est-à-dire la parole révélée, la parole personnelle que Dieu t'adresse à toi, qui va être bonne pour toi, qui ne va pas être bonne pour l'autre. La pépite dont je parlais hier. Toi, tu vas essayer de faire la même chose que l'autre, il a fait, ça marchera pour lui, ça marchera pas pour toi. Tu verras que Yong Guicho, il fait des cellules maison, il fait fonctionner son église d'une certaine manière. Alors, à une époque, tout le monde essayait de faire fonctionner son église comme Yong Guicho l'avait fait avec la sienne. Mais le problème, c'est que Yong Guicho, il avait reçu les directives de Dieu pour lui personnellement et pour son ministère. Et ce qui marchait pour lui n'allait pas marcher pour toi. Et donc, les gens s'envoient en l'air en mettant en action les programmes que Dieu a donnés à d'autres. Hello? Vous devez chercher les couples, on a parlé de couples hier matin. Cet enseignement était très important. Vous devez chercher l'équilibre qui est propre à votre couple. Avec mon épouse, on a un équilibre, il nous convient, on est super comme ça. Vous essayez d'avoir le même équilibre, vous allez vous casser la figure. J'essaye d'avoir l'équilibre qui convient à votre couple, on va se casser la figure. Chacun doit trouver devant le Seigneur son propre équilibre. Entendre sa propre parole, et peut-être que l'expression est un peu dure, en fait, Dieu n'aime pas le parasitage spirituel. Il le permet lorsqu'on est nouveau converti, parce qu'un nouveau converti, c'est un bébé spirituel. Il est né de nouveau, il a besoin d'apprendre à grandir, il a besoin d'apprendre à grandir en maturité, comme nous l'avons dit l'autre soir. Donc il a besoin qu'on lui donne le biberon, il a besoin qu'on lui change les couches, c'est tout à fait normal. Des fois, il y a des odeurs bizarres, mais c'est normal. Mais le même gars, 10 ans après, il veut qu'on lui change les couches, les odeurs seront plus les mêmes. Et il y a beaucoup d'odeurs dans l'église qu'on ne devrait pas avoir. Parce que vous pouvez avoir une église de 5000 membres, les gens n'ont pas grandi en maturité, et c'est une grande garderie. Et les gens se battent à coups de biberon toute la journée. Or le diable, ce ne sont pas les coups de biberon sur la tête qui l'impressionne, ce sont les coups de l'épée de l'esprit. Hello. Alors vraiment, nous voulons tous repartir avec une parole de Dieu. Fais comme Jacob, je ne te laisserai pas aller que tu ne m'aies béni, que tu ne m'aies donné une parole. Jésus nous a dit de prier dans ce sens, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Mais c'est beaucoup plus que le pain dont il voulait parler. Parce que mes amis, si je vous donne une baguette de pain aujourd'hui, je ne pense pas que vous allez trouver votre... Vous allez aller à l'EDF ou à l'eau ou au gaz pour payer avec une baguette de pain. Ils vont vous dire, mais monsieur, revenez avec de l'argent. Donc là derrière, il y a beaucoup plus que le pain. Ça sous-entend, donne-nous ce dont nous avons besoin, mais donne-nous la parole, le réma du jour qui va provoquer notre miracle du jour. Pourquoi n'aurions-nous pas des miracles chaque jour? Notre pain d'aujourd'hui. Mais le miracle n'est engendré que par une parole particulière. Venez, on élève la voix. Seigneur, donne-nous aujourd'hui notre parole de ce jour, notre réma de ce jour. Car la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Dans le grec, là, le mot parole, ce n'est pas le mot logo, c'est le mot réma, de la parole révélée. Parce que si la parole n'est pas révélée, le diable peut l'utiliser. Je vais même aller encore plus loin. Lorsque la parole n'est pas révélée, elle peut devenir le meilleur instrument entre les mains du diable. Est-ce que j'y vais fort? Lorsque le diable est venu tenter Jésus dans le désert, il n'est pas venu le tenter avec le manuel du parfait petit sataniste. Enfin, mettez-vous à sa place. Le diable doit livrer le combat du siècle. Le plus grand combat de l'histoire de l'humanité. Alors il se prépare, hein. Il se fait les muscles, il fait les haltères le matin, et puis il va voir dans sa bibliothèque, il dit quel bouquin, quel mode d'emploi je peux utiliser. Il en a des bouquins, le diable. Vous savez qu'il en a des bouquins? Hein? Vous allez dans les rayons ésotériques, hein, ça ne manque pas. Hein? Et bon, je crois qu'il a une bibliothèque personnelle aussi. Eh bien, il a choisi aucun de ses bouquins. Il a tenté Jésus-Christ avec des versets bibliques. Des versets bibliques sortis de contexte. Il s'est rendu compte qu'il y avait une puissance encore plus grande que les bouquins ésotériques et que le manuel du parfait petit sataniste. Et c'était la parole de Dieu sortie de contexte. Vous comprenez maintenant pourquoi vous pouvez aller dans un lieu, entendre prédication après prédication et être démonté au lieu d'être reconstitué? Vous comprenez pourquoi vous pouvez aller à passer par une soi-disant cure de délivrance et quand vous revenez, vous avez plus de démons qu'avant? Ou à la rigueur, vous n'en aviez pas quand vous y êtes allé, quand vous revenez, vous en avez. Parce que la manière dont on utilise la parole de Dieu n'est pas le réma et la manière du Saint-Esprit. Donc quand vous vous attachez à un ministère, à une œuvre et que vous empirez au lieu de devenir meilleur, peut-être que ce n'est pas la parole qui est utilisée comme elle devrait être. Parce que la parole, elle est là pour nous rendre heureux, elle est là pour nous rendre épanouis. Mais la parole sortie de contexte, à cause de la parole de sortie de contexte, on prend le verset où Paul dit « La femme ne doit pas enseigner », puis pendant des générations, on interdit aux femmes d'exercer le ministère ou d'enseigner. Alors quand on remet chaque chose dans son contexte, et qu'on voit ça à la lumière du grec, on se rend compte qu'il est simplement en train de dire à la femme mariée de ne pas marcher sur les pieds de son mari. Oh, c'est très différent, hein? Combien de gens je rencontre au cours de mes voyages, ils sont liés par des bons conseils qu'ils ont reçus d'autres chrétiens. Et il y a les versets bibliques à la clé, hein? Il manque pas. Pourquoi? Parce que Jézabel, elle connaît la Bible par cœur. Les témoins de Jéhovah, elles connaissent par cœur la Bible. N'est-ce pas? Il y a des tas de sectes qui sont bâties sur la Bible. Vous êtes d'accord? Dans la Bible, sans l'Esprit, on est en danger. Je peux mettre les gens en danger si je ne suis pas un homme de l'Esprit, si je suis un homme de la lettre, parce que la lettre tue. Donc littéralement, je tue les gens en leur donnant ce que je crois être de bons conseils. Tu peux plus te remarier. Waouh, ben dis donc. Je n'oserais pas porter cette responsabilité sur une âme, moi. Comme disait quelqu'un, avant de juger les autres, il faut peut-être chausser leurs baskets pendant quelque temps. Après, on voit les choses différemment. Comme quand on juge les malades, ouais, c'est parce que tu manques de foi. Non, tu sais pas, il y a plusieurs causes. Parfois, c'est juste le diable qui t'attaque et il va falloir apprendre à sortir de ce piège dans lequel il t'a pris. C'est pas toujours parce que tu as fait mal. Parfois, c'est parce que tu as fait bien. Une personne peut être attaquée parce qu'elle a fait mal, elle a ouvert une porte à Satan, et une autre peut être attaquée pour la raison complètement inverse, parce qu'elle a fait bien. Parce que la Bible dit que ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés, donc seront attaqués. Hello? Donc c'est bien de savoir par le Saint-Esprit dans quelle position je suis, parce que je risque d'être accusé toute la journée pour quelque chose dont je ne suis pas coupable. Et dans le même sens, peut-être que j'ai quelque chose à rectifier dans ma vie, et comme je ne sais pas adapter la parole de Dieu à mon besoin, je ne sais pas entendre le Saint-Esprit, je ne vais pas rectifier là où je devrais rectifier. Est-ce que vous me comprenez? Je suis obligé d'apprendre à être à l'écoute du Saint-Esprit pendant le temps que je passe sur cette terre. Et ne vous laissez pas impressionner par celui qui vous débite 15 versets minutes. Ce n'est en rien une preuve qu'il est inspiré par l'Esprit de Dieu. Dites-moi, il faut être gonflé, permettez-moi l'expression, pour venir trouver le Verbe fait chair. Jésus, c'est le Verbe fait chair, c'est Dieu fait chair. Et venir, le Verbe fait chair, le tenter avec des versets bibliques. Donc nous comprenons qu'il y a quand même un sacré pouvoir à sortir les versets de leur contexte. Vous êtes responsable de ce que vous écoutez. Vous êtes responsable de qui vous laissez vous enseigner. Et d'ailleurs, pendant ce séminaire, vous n'avez pas à recevoir tout ce que je dis, tout ce que dit Alain et tout ce que dit Michael, simplement parce qu'on le dit. S'il y a des choses dans ce qu'on dit qui ne vous correspondent pas, vous ne sentez pas le témoignage du Saint-Esprit, mettez-le de côté. Vous n'êtes pas obligé de l'accepter. Nous ne sommes pas dans une secte. Nous devons agir selon les principes contraires. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. S'il y a quelque chose que je dis ce matin, tu ne sens pas l'approbation du Saint-Esprit, je ne te force pas à l'accepter. Moi, je suis le premier à me mettre à l'écoute de tous les prédicateurs que j'écoute et trier dans ce que j'entends. Il y a certains, je dis, c'est super du début jusqu'à la fin. D'autres, je dis, ben, je vais prendre 50%. D'autres, je vais prendre 80%. Faites attention dans les bouquins que vous lisez. C'est pas parce que quelqu'un a écrit un bouquin que tout ce qu'il écrit, c'est parole d'évangile, comme on dit. Vous n'êtes pas supposé être influençable. Un pasteur a pour premier travail, non pas de vous rendre dépendant de lui, ça c'est ce qu'on fait dans les sectes, c'est de vous rendre dépendant du Saint-Esprit, et donc le plus indépendant de lui possible. Hello? Tout le reste, ce n'est pas le fonctionnement du Saint-Esprit. Tout acte de foi qui n'est pas bâti sur une parole révélée n'engendrera pas la foi qui vient de Dieu. Ça peut engendrer une foi, il y a des tas de fois. Ici-bas, il y a la foi raplapla, le facteur, il a la foi. Mon facteur, il vient tous les jours, il a la foi que quand il sonne, je vais aller chercher le courrier. Moi, quand je mets une enveloppe dans la boîte aux lettres, j'ai la foi qu'elle va arriver. Et c'est pas cette foi qui sauve. Dans l'évangile, lorsque le Seigneur dit à ses disciples « Ayez foi en Dieu », dans le grec, c'est « Ayez la foi de Dieu ». C'est pas n'importe quelle foi qu'il faut connaître, c'est la foi qui vient de Dieu. C'est un don particulier que Dieu nous donne mais que nous sommes responsables de cultiver. Lorsque nous sommes nés de nouveau, dans Romains, il nous est dit que nous avons tous reçu une mesure de foi. Il semble que le grec l'a aussi dit, nous avons tous reçu la même mesure de foi, parce que ça me semble logique que Dieu ne fasse pas de favoritisme. S'il donne une grosse mesure à l'un et une petite mesure à l'autre, ça devient injuste. Est-ce que vous me suivez ? Donc nous avons tous reçu une même mesure de foi, mais alors à partir de là, nous avons tous la responsabilité de l'arroser. Et c'est pourquoi chez certains, elle va grandir plus rapidement que chez d'autres. Qu'est-ce que je vais faire de ma mesure de foi en quittant ce séminaire ? Est-ce que je vais l'ignorer ou tous les matins je vais me lever ? Je vais l'arroser. La Bible déclare clairement au sujet de la parole révélée de Dieu dans Jean 1, 3, qui est Jésus fait chair, toutes choses, répétez après moi, toutes choses ont été faites par elle. Et pour être sûr qu'on comprenne bien, il dit rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc il n'y a rien que tu pourras faire et aucun miracle que tu ne pourras obtenir dans ta vie si ce n'est par la parole révélée. Vous me suivez ? Rien. Dieu lui-même n'a rien fait sans la parole révélée. Alors pourquoi moi, Claude Payan, je vais pouvoir faire des choses sans la parole révélée ? Les prophètes qui faisaient des miracles ne faisaient pas la première chose qui leur passait par la tête. Ils obéissaient à la parole de Dieu qui leur était donnée. Et c'est pourquoi certains disciples de Jésus, ils ont vu Élie qui a fait descendre le feu du ciel. Eux qui n'ont pas reçu une parole personnelle pour faire descendre le feu du ciel, ils ont juste lu dans l'Écriture ce qu'avait fait Élie, et ils veulent faire descendre le feu du ciel sur un village. Ils s'attendent à ce que Jésus leur dise, vous avez bien lu la Bible, je suis content, vraiment, votre lecture de ce matin vous profite, parce que vous essayez de la mettre en pratique dès midi, hein. Vous voulez faire descendre le feu du ciel, super les amis. Et ils se retournent vers eux, ils leur disent, vous savez pas de quel esprit vous êtes animés. Mais Seigneur, c'est la même chose. Donc deux personnes peuvent faire la même chose, une est inspirée par un bon esprit et l'autre est inspirée par un mauvais esprit. Et d'ailleurs quand l'esprit de Dieu se manifeste au milieu de nous, il y a parfois des mauvais esprits qui essaient de se manifester aussi. Et on ne sait pas pourquoi, il y a ces gens qui dansent, c'est super, ils rayonnent de l'amour de Dieu, et puis il y a cette autre qui se met à danser là, elle fait exactement la même chose que les autres, et il y a un malaise qui est là. Et on n'arrive pas à expliquer ça. Pourtant, c'est exactement la même chose. Et malheureusement, c'est ce qui fait dire à des gens qui ne connaissent pas bien les choses de l'esprit, que lorsque le vin nouveau se manifeste, lorsque les gens tombent, lorsque les gens éclatent de rire, c'est le diable, parce qu'on a vu ça se passer aussi du côté du diable. Mais non ! Lorsque Dieu dit à Moïse de changer son bâton en serpent, et que les magiciens viennent pour contrecarrer l'action de Moïse, ils ne changent pas une carotte en lapin. Ils changent leur bâton en serpent. Donc extérieurement, on ne voit pas la différence. Donc il nous faut le discernement. Ce n'est pas à l'extérieur, on ne peut pas dire... Il y a des gens qui voulaient écrire des théories là, dans des livres. Alors lorsque les gens tombent en arrière, ce n'est pas de Dieu. Lorsqu'ils tombent en avant, c'est de Dieu. Ça, ce n'est pas mal, ça. T'es. Mais non ! Dans l'écriture, il y a des gens qui tombent en avant, il y a des gens qui tombent en arrière, il y a des gens qui sont bénis sans tomber, il y a des gens qui roulent par terre. Oh, ah, Saül, sous l'onction de l'esprit, s'est traîné par terre à moitié nu pendant des heures, toute une nuit. Alors, c'est l'esprit de Dieu. Le calme aussi, c'est l'esprit de Dieu. Mais le diable, il fait exactement les mêmes choses. Pourquoi ? Parce que le diable, son travail, c'est de singer Dieu. Où il les prend, ses idées, le diable ? Où est-ce qu'il les a prises, ses idées, le diable ? Son fonctionnement ? Chez Dieu. Donc c'est à nous d'avoir le discernement pour voir ce qui vient de Dieu et ce qui vient du diable, et non pas de dire, oh la musique classique c'est de Dieu, et le rock c'est du diable. Parfois la plupart des musiciens classiques, ils étaient soit homosexuels, soit ils faisaient partie de sectes bizarres. Et dans le folk c'est pareil. Donc c'est pas une question de style de musique, c'est une question d'esprit qui se trouve derrière la musique. Précédant la pêche miraculeuse, Pierre a dit à Jésus, Luc 5:5, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, tu vois, tu as œuvré pendant des semaines et tu as fait quelque chose qui est bon en soi, mais sans rien voir comme fruit. Mais il dit, mais sur ta parole, mais sur le réma que tu nous donnes, on va refaire la même chose et là ça va marcher. Vous savez, c'est une chose de partir à la bataille. et dire oui, nous avons l'autorité en Jésus-Christ, mais est-ce qu'on a reçu l'ordre de bataille, l'ordre de départ? L'homme de foi, on s'est tous fait tailler en pièces, on est parti avec la fleur au fusil, parce qu'on avait lu d'une manière générale dans l'écriture qu'on était plus que vainqueur, mais on a été plus que ratatiné. Est-ce que tu dois partir quand tu reçois l'ordre de départ à la bataille? Avant de marcher sur l'eau, le même Pierre, il demande à Jésus, quoi, de donner un commandement. Il n'a pas dit, allez Jésus, j'y vais, j'arrive. À ta parole. Alors Jésus lui dit, viens. Alors là, il a le droit de venir. Vous savez, pendant le réveil de Timor, une des histoires qui a été racontée, c'est que des personnes ont lu dans l'écriture que Pierre avait marché sur l'eau. Ils sont allés à une rivière très dangereuse, ils ont essayé de marcher sur l'eau, des chrétiens, ils se sont noyés. Ils n'avaient pas reçu de parole de Dieu pour marcher sur l'eau. Ok? Bon, si tu vas à la rivière là-bas, je crois que tu risqueras pas grand-chose. Mais n'essaye pas de marcher sur l'eau, un endroit où tu n'as pas pied, surtout si tu ne sais pas nager, tant que Dieu ne t'a pas dit « avance ». Hello. Ça ne lui aurait servi à rien à Pierre de déclarer par sa propre autorité « Seigneur, je viens à ta rencontre ». Il fallait que ce soit Jésus qui parle. Il nous est dit que Jésus lui dit « Viens Pierre ». Et Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Et là, il y a un autre enseignement. C'est pas parce que je suis en train d'obéir à Jésus que j'ai bien entendu le Saint-Esprit que le diable il va s'asseoir sur la chaise et il a dit « Oh, ça y est, bon, il a reçu la parole de Dieu, je ne peux plus rien ». Non, il nous est dit que là, le vent se mit à souffler plus fort. Pour l'intimider. Et lorsque Pierre a cessé de regarder à Jésus, il a regardé au vent. Quoique Jésus soit là en personne, il a commencé à enfoncer. Alors peut-être ce matin, tu es en train de dire, « Oh, il est bien gentil, c'est Claude Payard, on l'aime bien. » Mais s'il y avait Jésus en personne, quand même. Parfois, Jésus lui-même nous a dit qu'il était avantageux qu'il ne soit pas là en personne. Il a dit, « Si je m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Mais si je m'en vais... je vous enverrai le Saint-Esprit. » Et il nous a dit que c'était un avantage pour nous. Regardez, à l'époque de Jésus, dans son corps de chair, le Seigneur ne pouvait être qu'à un seul endroit à la fois. On est d'accord? Il pouvait faire que des miracles à un seul endroit à la fois. Aujourd'hui, par le Saint-Esprit, pendant que nous avons cette réunion, le même Saint-Esprit, qui est une expression de Jésus et du Père, se retrouve dans des milliers de milliers d'autres réunions à pouvoir faire des miracles et transformer la vie des gens. Donc nous n'avons pas un désavantage ce matin à ne pas avoir Jésus en chair et en os au milieu de nous. Nous avons un avantage. Tout le monde a compris?
Un avantage.
Un avantage. Dis-le à ton voisin, tu n'es pas désavantagé ce matin. Le temps des miracles, ce n'était pas à l'époque où Jésus marchait sur la terre. Aujourd'hui, c'est que Claude Payard, là, il marche avec son pantalon ridicule. Hein. Ah, ça me fait du bien, moi, d'être avantagé ce matin, là. Waouh! Ah, je suis content d'être avantagé. Alléluia! Oui, parce qu'il y a tous ces raisonnements évangéliques de fausse humilité. Ah, je ne suis pas Jésus. Ah, c'est pas Jésus, lui. Ah, si Jésus était là. Jésus nous a dit le contraire. Il habite en nous, je ne vous laisserai pas orphelin. Je suis là. Si deux ou trois sont ensemble en mon nom, je suis au milieu d'eux.
Amen.
Et déjà dans l'Ancien Testament, il nous était dit qu'il est doux et agréable. C'est le but de ce séminaire. Il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Car c'est comme l'huile, c'est-à-dire une onction particulière qui coule sur la barbe d'Aaron. Nous avons tous une onction avec laquelle nous ne pouvons pas parvenir à tous les résultats parce que Dieu a prévu, en plus de l'onction que nous avons tous, une onction corporelle qui va permettre de faire sauter les bouchons qu'on n'arrive pas à faire sauter dans notre propre vie.
Amen.
Sans virgule.
Ah oui.
Mais qu'est-ce qu'il dit, le psaume? Il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Donc il y a quand même une condition, là. Si on lit vite, on ne comprend pas ce qu'il veut dire. Parce qu'on s'assemble et on pense, parce qu'on est assemblé, que Dieu se doit de faire des miracles. Non, c'est quand nous créons une ambiance dans laquelle il est doux et agréable de se trouver ensemble. Quand tu as l'impression que les gens ils parlent sur toi, Il y a un gars là-bas dans le coin, il te regarde d'un mauvais œil. L'autre, il dit, qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là? Qu'est-ce qu'elle est venue à ce séminaire-là? Vous voulez être tranquille, là? On a déjà eu des problèmes dans l'église dans laquelle on était ensemble, il faut encore qu'elle vienne ici. C'est difficile de créer une ambiance dans laquelle il est doux et agréable d'être ensemble. Parce que vous savez, une ambiance dans laquelle il est doux et agréable d'être ensemble, c'est une ambiance dans laquelle il est doux et agréable pour le Saint-Esprit de se trouver au milieu de nous. Donc s'il est bien au milieu de nous, qu'est-ce qu'il fait? Il s'installe. Et il ne vient jamais les mains vides. Vous êtes déjà allé chez quelqu'un et vous sentez qu'il n'a pas envie que vous restiez. À la rigueur, vous êtes venu avec un cadeau. Et il vous fait sentir que, bon, ben, il regarde sa montre, ok. Ben, vous repartez avec le cadeau, hein. Je crois que ça m'est arrivé une fois. J'ai dit à ma femme, sors pas le cadeau, on repart. Le Saint-Esprit s'installe, il est content, il y a les louanges, alléluia, il est content, le Saint-Esprit. Puis d'un coup, il commence à entendre de médisance. Oh, regarde le pasteur, hein. T'as vu la coupe de cheveux de l'autre là-bas? Il entend tout ça, il dit, mais bon, ben, j'ai fait mes valises, je repars. Donc on n'a pas le temps d'arriver à nos miracles, hein. Pourtant ça démarre bien souvent. Est-ce que vous me suivez?
Amen.
Alors, on a une responsabilité, c'est de créer une ambiance dans laquelle il est doux et agréable de demeurer ensemble. Tu es bien ce matin? Tu ne te sens pas jugé par moi?
Non, amen.
Ok, je suis content que tu es là. Gloire à Dieu, ça me fait plaisir. Tu es venu à Marseille, on s'est vu chez Michel Allard. Hein, et tu persévères, il n'y a rien qui t'arrête. Waouh, moi j'admire les gens. Il y en a d'autres qui sont en pleine santé, ils ont tout ce qu'il faut, il ne faut rien leur demander, tu sais. Oh là là! Et les gens, ils râlent toujours. Dieu ne bénit pas les râleurs, rappelez-vous de ça. Ok? Amen. Une parole de Dieu, une décision, dans un acte de foi, l'entrée dans le ministère, le démarrage d'une église, le choix d'un conjoint qui n'est pas bâti sur une parole de Dieu, ce n'est pas une démarche de foi, c'est une démarche de folie. Il y a des gens qui disent, oui, oui, écoutez, on va le faire par la foi, d'accord? Ils ne sont pas sûrs, mais on va y aller par la foi. Non! Aller par la foi sans conviction, ce n'est pas la foi de Dieu, c'est de la folie. Je vais sauter par la fenêtre par la foi. Et tu vas aller au cimetière par la foi. Et tu vas aller au ciel plus rapidement que prévu par la foi. Maintenant, si tu es poursuivi par des gens qui te persécutent et tu entends le Saint-Esprit qui te dit saute par la fenêtre, là tu sautes, il y aura des anges pour te rattraper. Est-ce que vous voyez la différence? Personnellement, j'ai entendu Dieu me parler pour le servir, pour choisir Julia comme épouse. Je pourrais vous dire que sur quelle route c'était. J'étais en train de conduire une vieille voiture qu'on avait à l'époque. Et j'entends le Saint-Esprit dans la voiture qui me dit, tu peux y aller avec elle, c'est la bonne. Ouh. Elle avait pris un bateau dans lequel elle voulait faire une partie de ce tour du monde qu'elle avait entamé. Et le bateau a été pris dans une tempête, et dans la tempête, elle a crié à Dieu parce qu'elle se voyait mourir. Elle a entendu la voix du Saint-Esprit qui lui a dit, ne crains point, j'ai du travail pour toi, tu ne mourras pas. Et le bateau a dû aller se faire réparer, je le disais l'autre soir, à Toulon, ce qui n'était pas prévu au départ. Et là, on s'est rencontrés, les temps et les circonstances. Mais il y avait eu une parole de Dieu. Quand elle était jeune, mon épouse, elle a rencontré ou un prophète ou un ange, je ne sais pas encore, quelqu'un qui... C'était lors de ses vacances, elle allait rentrer chez elle, était avec un grand chien blanc, il lui a parlé comme s'il la connaissait. Il lui a dit, un jour tu serviras le Seigneur, il te donnera un mari fidèle pour ta vie, et j'entendrai parler des grandes choses que tu fais pour lui. Et quoi qu'à l'époque, elle ne voulait pas marcher avec Dieu, cette graine, elle a demeuré. Il y a des graines, si on les laisse demeurer, et si on les sème dans nos enfants, à un moment donné, au temps voulu, elles germeront.
Amen.
Ne regardez pas le fait que vos enfants ils marchent ou ne marchent pas avec Dieu aujourd'hui. Continuez à semer des graines, continuez à les arroser et surtout continuez à donner le témoignage de ce que vous vivez l'évangile, vous. Parce qu'ils sont saturés de tous ces gens à l'église qui vivent le contraire à la maison de ce qu'ils prêchent. Ils en ont ras-le-bol des alléluia quand ils voient comment se comportent les gens dans la vie de tous les jours, les chrétiens. Donc il faut qu'il se lève une nouvelle race, entre guillemets, d'hommes et de femmes de Dieu qui marquent la différence. Alléluia. Et d'ailleurs, bien avant, lorsque j'avais 22 ans, j'étais en train de travailler à Marseille, et j'ai entendu la voix du Saint-Esprit qui m'a dit « Va habiter à Toulon ». Oh, sur le coup, j'ai pas trop fait attention, et chaque jour ça revenait. Michael parlait de cette voix-là qui s'impose de plus en plus. On mange avec, on dort avec, on marche avec. Va habiter à Toulon, va habiter à Toulon, va habiter à Toulon. Le seul petit problème, c'est que je ne connaissais pas Toulon. J'étais passé deux ou trois fois dans ma vie, mais juste comme ça. Je suis allé habiter à Toulon, et quelques mois après, j'ai rencontré mon épouse à Toulon. Le miracle est engendré par une parole. Ça, il faut que ce soit clair, d'accord? Et une parole, en général, se reçoit dans la présence de Dieu et dans la faim et la soif de Dieu. Plus que la faim et la soif d'être guéri, plus que la faim et la soif d'avoir de l'argent. Est-ce que vous voyez la différence? Avant de chercher la prospérité, cherchez le Dieu de la prospérité. Avant de chercher la guérison, cherchez le Dieu de la guérison. Avant de chercher une épouse ou un conjoint, cherchez le Dieu de la famille. Alléluia!
Amen.
Celui qui a dit « Repeuplez la terre ». Cherchez d'abord à marcher dans les intérêts de Dieu avant de marcher dans vos propres intérêts. La Bible nous dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et toutes choses vous seront données par-dessus ». Alléluia! Jésus a dit à Pierre aussi lorsqu'on vient lui réclamer les impôts, moi je trouve ça super, Matthieu 17, 27, va à la mer. Alors Jésus il est là, il n'a pas d'argent dans les poches, hein. Je ne sais pas s'il a des poches dans sa tunique. Va à la mer et tire le premier poisson qui viendra. Parlez d'une parole, ouvre-lui la bouche et tu trouveras un stataire, prends-le et tu donneras pour toi et pour moi. Vous n'aimeriez pas payer vos impôts comme ça? Nous souvent on dit, bon ben, je vais essayer de payer en trois fois, quatre fois. Je vais demander une dérogation, je vais faire une lettre spéciale, ok? Il ne fait pas une lettre spéciale, il fait un miracle! La logique de Dieu pour toi et pour moi, c'est le miracle! Alors, lorsqu'il a fait sortir les Hébreux d'Égypte, hein, il n'avait pas dans sa logique qu'ils allaient pouvoir passer la mer comme ça. Il les amène dans un cul-de-sac. Parce que sa logique à lui, c'est qu'il va faire un miracle. Alors, il y a des gens qui trouvent toujours comment expliquer les miracles. Oui, mais c'était un endroit où l'eau elle était basse, vous savez. C'est un gars qui essayait d'expliquer ça. Alors une petite fille chrétienne lui a dit, ben, c'est un miracle encore plus grand parce que vous dites qu'il n'y avait que 20 cm d'eau, ils sont passés les Hébreux et toute l'armée égyptienne a été noyée dans 20 cm d'eau. C'était un miracle. Il y a un autre qui essayait d'expliquer la multiplication des pains et des poissons. Alors il disait, oui, mais vous savez, il faut remettre dans le contexte historique. À l'époque, les pains, ils étaient très très gros. Or, la Bible nous dit que c'est le goûter d'un petit garçon. C'est le goûter d'un petit garçon qui a été donné, d'accord? D'où l'enseignement que le miracle ne se fait pas sans rien. Si vous voulez un miracle à partir de rien, c'est pas biblique, je tiens à vous rassurer. Que Dieu vous bénisse à partir de rien, c'est pas biblique. On a toujours quelque chose à donner. Je vais quand même boire un peu d'eau parce que je commence à... Est-ce qu'il y a une bouteille d'eau, là? Sinon, je vais être obligé de faire un miracle. Voilà. Merci, mon frère. Merci pour notre frère cuisinier, hein. Alléluia, on peut l'applaudir. La faim et la soif. Chaque fois qu'il peut être en réunion, il vient. Là. Alors c'était à partir de quelque chose, de peu, mais de quelque chose, qu'un miracle a été fait. Par le miracle de la multiplication des pains et des poissons, à partir du goûter d'un petit garçon. Hello? Mais il a fallu que le petit garçon il donne son goûter, on est bien d'accord? Et il a fallu donc qu'il libère sa volonté. Moi, j'imagine que Pierre ou Paul, non, il n'était pas encore là, ou Jean, sont allés le voir, lui ont dit, tu veux donner ton goûter pour Jésus? Est-ce que tu imagines que Pierre, il est venu, pendant que le petit garçon, il tournait la tête, oh, il a pris le goûter, et il est parti auprès de Jésus. Vite, fais-nous un miracle, le petit garçon qui courait derrière son goûter. Vous pensez que ça s'est fait comme ça? Non, parce que Dieu respecte notre libre arbitre. Je te rends ta bouteille, hein. Non, il a fallu qu'il y ait un don, et pas un petit don, un don qui lui coûte, parce que c'est tout ce qu'il avait. Là, il y a un enseignement aussi. En général, on veut des gros miracles. Pour un gros miracle, il faut une grosse semence, et il faut un gros sacrifice. Et pour un petit miracle, une petite semence et un petit sacrifice. Parce que la Bible dit, ce qu'un homme sème, il le récoltera, Si nous semons peu, nous récolterons peu, c'est dans la Bible. Et si nous semons abondamment, nous récolterons abondamment. Alors je sais qu'il y a toujours des gens pour utiliser ces versets pour nous pomper notre argent ou ce qu'on a. Et il y a des gens qui tombent dans les abus avec toutes les vérités bibliques. Mais comme nous l'avons dit l'autre soir, ça ne doit pas remettre en question la vérité biblique. Jésus a dit « Donnez et il vous sera donné ». On est d'accord ? Maintenant, la pensée et la précision que nous avons par rapport à ce qui a été enseigné auparavant, c'est « Donner conduit par l'esprit ». Michael nous a dit hier soir, tu peux donner par sentimentalisme, ce n'est pas de ce don dont l'Écriture parle. Tu dois semer dans la bonne terre. Si tu prends des graines et que tu vas là sur la route, tu sèmes sur le goudron, tu as fait ce qu'il semble que la Bible te dit de faire, tu sèmes, mais tu n'auras aucune récolte parce que tu n'as pas semé dans la bonne terre. Donc pour semer dans la bonne terre, il faut semer sous les directives du Saint-Esprit. Ne donnez pas votre argent à n'importe qui. Hello ?
Amen.
Semer dans la bonne terre. Une parole personnelle, elle entraîne toujours une obéissance, un effort et même un sacrifice, un don. Parce que l'Évangile lui-même est bâti sur ce principe, frères et sœurs. Dieu a tant aimé le monde, notre salut est bâti sur ce principe, qu'il a donné son Fils unique. Donc toute ta vie va être bâtie sur ce principe. Donner, recevoir, donner, recevoir, donner, recevoir. Tu inspires, tu expires. Tu inspires, tu expires. Ta vie est bâtie là-dessus. Essayez d'inspirer seulement. Allez-y. Ou essayez d'expirer seulement. On se dégonfle, hein? Il faut les deux. Simplement, il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. On commence par donner, on reçoit. On ne commence pas par recevoir et donner. Allô ?
Amen.
Mais les deux doivent fonctionner dans notre vie. Dès que le principe de donner, recevoir est stoppé, c'est la mort qui s'installe. La mère morte, on l'appelle ainsi, parce qu'elle a un trop gros dosage de sel qui ne permet pas à la vie, au poisson, de subsister. Pourquoi ? Parce qu'elle reçoit, elle reçoit, elle reçoit, elle ne donne pas. Alors c'est notre troisième point. Qui est partant pour le troisième point ? Je vous donne la chance de pouvoir partir en courant dans le troisième point. Voyez, on ne vous manipule pas, regardez. On n'a pas fermé les portes. Tout est ouvert. Ce qui fait mal, le troisième point, à la chair. Une fois que Dieu nous a parlé, il y a une obéissance à ce qu'il nous a dit de faire. Cette obéissance entraîne le mot un sacrifice. C'est une notion qu'il faut redécouvrir, je vous assure. Je connais des frères catholiques qui ont une plus grande notion de sacrifice que les trois quarts des chrétiens évangéliques que je connais. On a perdu la notion de sacrifice. Et pourtant, notre salut est aussi bâti sur le principe du sacrifice. Jésus qui a donné sa vie. Et c'est à cause du sacrifice qu'il a réussi à engendrer le miracle d'hommes et de femmes nés de nouveau. Rappelle-toi que tout grand miracle qui interviendra dans ta vie passera par un sacrifice. Je ne veux pas être trop long ce matin, mais si vous pouviez écouter tout ce que j'ai à dire, ça peut complètement changer votre vie. Et au lieu d'attendre que les miracles arrivent, vous pouvez commencer à déclencher les miracles. Et des choses que vous avez attendues pendant des années, elles peuvent arriver dans 3 jours la semaine prochaine. Pour produire le miracle de la multiplication des pains, il a fallu qu'un petit garçon donne du peu qui lui restait. Il y a quelque temps, j'ai eu à cœur, en fin 2007, de semer une très bonne guitare électrique que j'avais de marque Gibson, pour ceux qui connaissent les marques de guitare. C'était une très bonne guitare, mais j'avais le sentiment que Dieu me l'avait donnée et voire qu'il me l'avait confiée pendant un temps. J'avais fait une super affaire lorsque je l'avais achetée. Et là, je ne sais pas, j'étais dans mon bureau et cette pensée est venue, mais revenue, qu'il fallait que je sème cette guitare, que je la donne à une personne dont je savais qu'elle serait heureuse de l'avoir, qu'elle ne pouvait pas se la payer et que c'était un juste retour des choses, c'est personnel, qu'elle ait cette guitare. Alors j'ai fait ce don, j'en ai parlé à personne, j'ai fait ce don. Une dizaine de jours après, et quoique le processus s'est mis en place avant, parce que la personne a mis du temps à retrouver mon adresse email, elle avait envoyé des mails avant qu'ils lui sont revenus, je reçois un mail d'une personne que je n'ai pas vue depuis 15 ans, et que j'ai rencontrée 2 ou 3 fois, et que je connais très mal. Et dans ce mail, elle me dit, j'ai entendu parler de toi et de ton épouse, 2 jours d'affilée par diverses personnes, et j'ai été visité par le Saint-Esprit, et j'ai cherché tes coordonnées pour rentrer en contact avec vous. Et il dit, voilà ce que je suis devenu pendant ces 15 ans, j'ai prospéré. Déjà, ça m'a fait plaisir, un chrétien qui prospère. Ça devient rare. Et j'ai ouvert un magasin de musique qui est devenu un ou le plus important dans mon pays. Alors, il n'a pas ouvert une boulangerie. Il n'a pas ouvert une boucherie. Il n'a pas ouvert un bazar. On est d'accord? Il a ouvert un
magasin de musique.
Voilà. Dans un magasin de musique, il y a des instruments.
Il y a des instruments.
Des instruments. Parmi les instruments, il y a des guiguilles.
Des guitares.
Vous voulez que je donne encore des précisions? Et dans le mail, il ne se contente pas de me dire qu'il a ouvert un magasin de musique. Il me dit, Dieu m'a mis à cœur de te donner une guitare. Va sur mon site et choisis dans telle guitare à prix élevé, hein, celle que tu veux. Alors je te propose, si tu veux, cette marque, Taylor, c'est très bon, mais tu choisis ce que tu veux. Alors je lui ai dit... Je lui ai répondu, j'ai semé une guitare électrique et il me semble logique de récolter une guitare électrique. Donc si ça ne te dérange pas, dans les mêmes prix, je vais choisir une guitare Gibson, celle dont je rêvais lorsque j'étais tout petit. Led Zeppelin, etc. Je pars du principe que ce n'est pas aux gens du monde d'avoir le meilleur matériel et la meilleure musique, ok? Il m'a dit, la guitare est à toi. Waouh, j'ai choisi Blanche, Les Paul. Ça fait plaisir? Timing de Dieu. Comme par hasard, nous avons notre séminaire ce mois-ci. On n'est jamais monté si haut. Pas loin de où il habite. Il s'inscrit au séminaire avec son épouse parce qu'ils ont besoin de suivre le séminaire en tant que couple. Et il vient avec la guitare. Et quand il arrive, il me dit, viens, on va à la voiture, je te donne la guitare. Alors Michael, là, bien sûr, il saute de sa chaise, qui aime les guitares électriques. Il me dit, je vais avec toi. Et là, je lui dis, non, Michael. C'est une affaire entre moi et la guitare. Je voulais juste avoir le plaisir tout ça.
Non mais je t'ai pardonné. Non mais je pêche plus.
Et là, quand j'arrive à la voiture, il me montre la guitare. Oh, merci Seigneur, merci frère. Et là, il me montre une autre guitare, d'un coup sous celle-là. Il me dit, le Seigneur m'a parlé que finalement, je devais te donner aussi celle que je t'avais proposée au départ. D'ailleurs, vous avez remarqué qu'on est 2 à jouer de la guitare avec mon épouse. Donc le Seigneur, quand il fait des choses, il ne les fait pas à moitié. Donc il m'a donné plus de 3000 euros de guitare. Et lorsqu'on le remerciait avec mon épouse, au bout d'un moment, elle a dit, bon, arrêtez de me remercier maintenant. Hein? Parce qu'il nous a expliqué. Il a dit, si je l'ai fait, je t'assure, j'ai été visité par le Saint-Esprit et j'ai eu un sentiment de compassion. Il fallait que je vous retrouve, il fallait que je vous offre ces guitares. Voilà ce qu'il m'a dit pour me dire, arrêtez de me remercier maintenant. C'est, j'ai vraiment été visité à la rigueur, j'aurais pas voulu le faire, que j'aurais dû le faire quand même. Oui, on peut trouver ça parfois marrant. C'est Oral Roberts qui raconte une personne qui est venue le trouver un jour, un inconverti, et qui lui a fait un énorme chèque pour le ministère. Il lui a dit, je vous aime pas, j'aime pas vous voir à la télé, je vous trouve antipathique, mais j'ai été visité par un ange et j'obéis. Cette guitare, peut-être il se serait passé encore 10 ans pour que je l'aie. J'ai provoqué mon miracle. Hello? Hello? Et il s'est accompli ce que dit l'écriture. Et j'aime ce verset. Éphésiens, je ne me rappelle pas la référence, nous dit à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. Au-delà de ce que nous demandons et pensons. Moi, j'en ai assez, je ne sais pas pour vous, d'attendre un gros truc, il arrive toujours plus petit. Tu attends un super chèque, il arrive une super facture. Toujours moins. Tu sais, comme dans Malachi, tu as l'impression d'avoir la poche percée. Vous vous attendiez à beaucoup, il dit à son peuple, le Seigneur, et vous avez peu. Mais dans Éphésiens, il nous a promis le contraire. Tu reçois plus que ce que tu attendais. À celui qui peut faire par la puissance qui agit en vous. Elle agit pas de l'extérieur, elle agit en nous. Donc c'est moi qui veux provoquer mon miracle avec le Saint-Esprit qui habite en moi. Ça sert à rien de prier parfois, Seigneur, fais quelque chose. Je me mets à l'écoute du Saint-Esprit et j'apprends à comprendre ce qu'il veut que je fasse. Et le miracle va être au rendez-vous parce qu'une parole de Dieu, il envoya sa parole et elle est guérie, miracle. Donc on est en panne de parole de Dieu. Alléluia. Alors c'est vrai, on a donné le témoignage l'autre jour qu'il est arrivé au moment où le CD était prêt, 5000 euros, comme par miracle. 5000 euros, c'est pas 50 euros, hein. J'ai envie de pleurer quand il se passe ces choses-là. J'aime voir Dieu à l'œuvre. J'aime le voir confirmer sa parole. Ça me fait encore plus plaisir que les 5000 euros, le fait de voir Dieu à l'œuvre. Maintenant, la semaine d'avant, on avait quand même semé 1000 euros avec mon épouse. On s'était dit, on va prendre une somme et on va la semer, une somme encore plus grande que ce qu'on a l'habitude de semer. Allez, on s'entend, chérie, on sème 1000 euros. Avant de faire quoi que ce soit d'autre avec ça, on va les semer. Ces 5000 euros, ils ne sont pas arrivés comme ça. C'est ça qu'il faut comprendre. Les gens, ils entendent des témoignages de ce que vous avez vécu, ils essayent d'avoir les mêmes résultats en faisant pas les mêmes choses. Alors, vous ne devez pas faire les mêmes choses dans le sens de faire le même acte que j'ai fait moi, mais vous devez apprendre à faire l'acte qui correspond à la parole que Dieu vous donne à vous. Hello ! Non, moi, je ne connais pas un miracle qui arrive comme ça dans ma vie. Ça, je ne connais pas, sauf occasionnellement, parce qu'il y a une onction, c'est vrai, qui existe, où Dieu, parfois, il répand une onction de grâce particulière, et puis ça arrive. Hein. Il y a des gens, parfois, ils rentrent dans une salle comme ça, ils ne croient pas en Dieu, ils ne se convertiront même pas, et ils passent et ils sont guéris. Ça arrive. Mais il ne faut pas compter sur cette onction pour gérer notre vie. Ce que la Bible dit, c'est qu'un homme sème. Et lorsque Paul s'adresse aux églises, donc aux chrétiens nés de nouveau, il leur donne un mode d'emploi, ce qu'un homme sème, il le récoltera. Les enseignements qui nous troublent parfois, ce sont les enseignements qui nous demandent de semer sans pour autant être à l'écoute du Saint-Esprit. Ça devient un faux enseignement. Nous avons affaire parfois à des versets bibliques qui nous sont apportés, mais qui sont des faux enseignements, parce que tout semble là, ça ressemble, ça a l'air bon, mais il manque la direction du Saint-Esprit. Alors, par ces meurtrissures, je suis guéri, oui, mais ça ne sert à rien de lire 50 fois cette phrase. Il faut que je reçoive la révélation personnelle que Dieu est en train de me guérir par ces meurtrissures. Ça devient personnel. Personne ne peut le vivre à ma place. Sinon, dans les temps où je suis nouveau converti. Et vous avez remarqué, quand on est nouveau converti, on prie, hop, ça arrive, on prie, hop, ça arrive, on prie, hop, ça arrive, on a l'impression que ça va continuer comme ça. Puis d'un coup, on prie et ça n'arrive plus. Parce que le temps est passé. Avant, on était porté par la foi des autres. Et là, on va devoir développer notre propre foi. On va devoir entendre Dieu pour nous-mêmes. Amen. Ce soir, on aura une offrande. Si Dieu vous conduit à donner dans cette offrande, essayez de faire une offrande qui déclenche le miracle. L'autre jour, on a fait une offrande d'adoration. Il y a plusieurs formes d'offrandes. Moi, je vais faire une offrande personnelle ce soir pour déclencher un miracle dans ma propre vie. Mais l'offrande qui déclenche un miracle, c'est quelque chose qui nous coûte. Pas quelque chose où on donne ce qu'on n'a pas. Pas quelque chose qui nous met obligatoirement en super danger. C'est pas ça l'idée, ok? Mais c'est quelque chose que la chair n'a pas envie de faire. Vous croyez que j'avais envie charnellement de donner la guitare électrique? Il a vraiment fallu que ce soit une conviction qui revienne. Ok? Et tout au long de votre vie, je dirais chaque mois, chaque semaine, mettez-vous à l'écoute du Saint-Esprit pour savoir qu'est-ce que vous pouvez faire, qui vous coûte, mais qui va faire que votre vie ne sera plus jamais la même. pour que vous soyez plus quelqu'un qui attend le miracle, mais quelqu'un qui provoque le miracle. Il y a des miracles que j'attends, et je sais qu'il va falloir que je fasse certaines choses pour qu'ils arrivent, parce qu'ils ne vont pas arriver tout seuls. Alors quelqu'un dira, ah, vous enseignez donc d'acheter la bénédiction. Non, c'est pas ça. Mais je ne crois pas à un certain enseignement évangélique comme quoi la bénédiction elle vient toute seule. Vous avez vu Abraham et Melchisédek ? Abraham, il n'a pas eu la bénédiction comme ça. Il a donné la dîme à Melchisédek. Et en retour, Melchisédek, il a béni. Dieu, il ne veut pas bénir les gens qui ne donnent pas leur dîme. C'est pas biblique. Le petit garçon, il a donné son goûter. En retour, il y a eu un miracle. Et regardez tous les exemples dans l'Écriture où il y a eu un miracle. Qu'est-ce qui s'est passé avant le miracle ? Et là, on revient à cette réalité de l'Écriture qui fait que la vie chrétienne, ce n'est pas ce qu'on nous a dit parfois. Je me mets dans un fauteuil, il y a des roulettes dans le fauteuil, Jésus épouse, et tu n'as plus rien à faire, ne t'inquiète pas. Non, ça va être une vie de sacrifice, et chaque échelon supérieur dans lequel je veux rentrer, il va correspondre à un sacrifice supérieur. Alors, ce n'est pas toujours un sacrifice financier, dans mon temps, dans mon comportement à l'égard des autres. Chaque fois que je voudrais que mon couple parvienne à une dimension supérieure, je vais devoir travailler sur mon attitude de mari et d'épouse à l'égard de mon conjoint. Logique ? Et chaque fois que j'aurai l'impression que ça stagne, qu'il faut encore passer un cap supérieur, eh bien je vais devoir faire un sacrifice de ma personne par rapport à mon égoïsme, par rapport aux choses que ma chair ne veut pas faire. Vous supportez encore 5 minutes ? Dans ces 5 minutes, je voudrais nous faire réaliser que l'enseignement sur la prospérité facile, c'est un faux enseignement. La Bible dit, ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Il n'y a pas de gain qu'il n'y ait de perte. Et on se rend compte, malheureusement, que ce principe du sacrifice qui déclenche le miracle, il est souvent beaucoup plus compris du côté obscur que du côté de l'Église de Jésus-Christ. Dans 2 Rois 3, 26, 27, je vais terminer par ce commentaire. 2 Rois 3, 26, 27, ça fait partie de ces passages qu'on a lus et relus et on n'a pas vraiment compris, je ne sais pas pour vous, ce qui se passe. Et à la lumière de plusieurs traductions, on peut comprendre ce qui s'est vraiment passé. Il y a le peuple hébreu qui est en train de combattre contre le roi de Moab et les hébreux sont en train de gagner. Vous connaissez ce passage ? Et voyant qu'il avait le dessous dans le combat, le roi de Moab, il prit avec lui 700 hommes tirant l'épée pour se frayer un passage jusqu'au roi des Dents, mais ils ne purent pas, il voit qu'il est coincé, il s'en sort pas le gars. Dieu est en train de gagner en d'autres termes, parce que c'est un type abominable ce roi de Moab. Ces gens sacrifiaient leurs enfants, ils les brûlaient à Baal et à Moloch. Il prit alors son fils premier-né qui devait régner à sa place et il offrit un holocauste sur la muraille. Jusque-là, on se dit, ils avaient l'habitude de faire ça. Et la suite, on ne comprend pas ce que dit le texte dans le second. Une grande indignation s'empara d'Israël qui s'éloigna du roi de Moab et retourna dans son pays. Attends, qu'est-ce qui se passe là ? Les Hébreux, ils sont en train de gagner. Le roi de Moab essaie de s'enfuir, il n'arrive pas à s'enfuir. Il fait un acte abominable, la plus forte raison parce qu'il fait un acte abominable, les Hébreux auraient dû lui dire, maintenant on va le coincer celui-là et on va lui faire payer. Et on va l'exterminer. Mais non, le peuple hébreu s'enfuit. Le texte second est bien flou dans ce passage. On n'arrive pas à comprendre ce qui se passe vraiment. Et on se pose la question, pourquoi les Israélites se retirent alors qu'ils sont en train de gagner, et je le répète à plus forte raison, parce qu'ils sont indignés de l'acte du roi de Moab. Ça aurait dû les booster pour vaincre jusqu'au bout. La Bible d'Arbi, elle rend ce passage qui dit qu'il y a eu une grande indignation qui s'est emparée d'Israël. Il y a eu une grande indignation contre Israël. Alors d'un coup là, c'est plus Israël qui est indigné, c'est une indignation, terme bizarre, qui a frappé Israël. La Bible française courante traduit « Les Israélites éprouvèrent une telle crainte qu'ils se retirèrent. » Oh, vous voyez ? Donc, par cet acte abominable de sacrifice abominable, il a libéré une puissance occulte contre Israël. Et eux qui étaient pourtant conduits par l'Esprit de Dieu et en train de gagner, ils ont été saisis d'une grande crainte. Ils ont fui. Il apparaît que par cet acte abominable du roi de Moab, quelque chose de mauvais, selon les traductions, il est dit qu'il y a de la colère qui s'est répandue sur Israël, de la fureur, de l'écume, pour l'empêcher d'aller jusqu'au bout de sa victoire. Ça vous est jamais arrivé d'arriver presque à la victoire? Et vous commencez déjà à louer Dieu. Oh, ça y est, je suis délivré. Et tu te ramasses complètement. Il y a une dernière contre-attaque de l'adversaire. À qui c'est arrivé ça? On doit être des hommes et des femmes qui apprennent les tactiques de guerre. À travers ce sacrifice a été libéré du côté obscur une force mauvaise qui a coupé les jambes à l'armée d'Israël qui, sans trop savoir pourquoi, s'est retirée à deux doigts de la victoire totale. Donc, un principe demeure, et je termine par là, et c'est bien triste qu'il soit connu du côté obscur de la barrière, un principe demeure, c'est que le sacrifice libère de la puissance. Et nous avons été rachetés par le sacrifice de Jésus-Christ. Alors la différence entre le côté obscur et les enfants de Dieu, c'est que chez Satan, on sacrifie les autres pour ses propres intérêts. Et nous, c'est tout le contraire. On doit se sacrifier pour les intérêts des autres. On n'aura jamais une armée puissante qui se lève et qui est victorieuse de Satan et qui voit des miracles toutes les semaines sans que ce soit des gens, des hommes et des femmes qui ont une notion de sacrifice. On n'aura jamais des couples qui fonctionnent si ce n'est pas un homme qui sait se sacrifier pour sa femme et une femme qui sait se sacrifier pour son mari quand il faut le faire. Ce n'est pas 24 heures sur 24, on est bien d'accord. On n'aura pas de ministère puissant qui ne sait se sacrifier pour les autres. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Alléluia. Mais les brebis, elles doivent donner leur vie pour le bon berger aussi. Il ne faudrait pas que ça marche que dans un sens. Il y a des gens qui sont en train toujours de juger le pasteur parce qu'il n'a jamais fait assez pour eux. Mais il faut donner notre vie pour les hommes de Dieu. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il est dit dans Malachie ? Si tu apportes à la maison du trésor les dîmes et les offrandes, tu verras si je ne répands pas la bénédiction sur toi avec abondance. À quoi servaient ces dîmes et ces offrandes? Elles étaient stockées dans des chambres spéciales du temple pour nourrir les lévites et les serviteurs de Dieu. Et Dieu dit que si on est réglo dans ces choses-là, dans ces offrandes, eh bien, il menacera pour nous celui qui dévore. Donc nous comprenons bien ce matin, j'espère, que les choses ne sont pas entre les mains de Dieu. Elles ne sont pas entre les mains de Dieu, parce qu'alors Dieu, il ne sait pas ce qu'il fait. Il fait la sieste là-haut. Il allait se coucher, il a oublié de se réveiller, son réveil ne marche pas. Est-ce qu'on veut accepter notre responsabilité? Il a commencé dans ce sens, Michael, hier soir. Accepter notre responsabilité personnelle. Je n'ai pas dit accepter de se culpabiliser. J'ai dit accepter d'en apprendre plus, apprendre à mieux connaître les lois de Dieu et apprendre de plus en plus à les mettre en action. Être de plus en plus à l'écoute du Saint-Esprit pour savoir quels sont les actes qu'on peut faire pour débloquer les situations sur le chemin. C'est parfois on aide une personne, on va lui donner 10 euros, 15 euros, et avec 10 euros, 15 euros, c'est bien, hein, si elle en a besoin. Mais jamais on la sortira du caca avec ça. Est-ce qu'on me suit? Mais si on lui donne une bonne somme, 1000 euros au moins, elle va s'en sortir plus facilement. Donc parfois on jette des grenades et les grenades ne font pas grand chose. Donc parfois il faut faire des actes de foi qui nous coûtent plus et qui sont des bombes. Et ces bombes qui sont jetées, elles créent des percées par lesquelles les anges y s'engouffrent pour bénir les gens. Et je crois qu'au sein du peuple de Dieu, on doit aujourd'hui avoir des hommes et des femmes qui sont capables de jeter des bombes et qui arrêtent de jeter des petites grenades. Vous me suivez? Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu ne va pas nous abandonner dans notre manque. Ok? Il va nous donner des guitares. Le gars, je ne l'avais pas vu depuis 15 ans. J'ai pas téléphoné dans toute l'Europe en disant Je tiens à ce que toutes les églises soient au courant, j'ai semé une guitare. Comme le gars, tu sais, qui prie à la fin du culte, Seigneur, j'ai besoin d'une paire de baskets 43, bien fort, si tu veux parler à quelqu'un pour m'offrir une paire. Bon, si quelqu'un lui offre, ça ne sera pas obligatoirement Dieu qui l'aura conduit. Ce gars que je n'ai pas vu depuis 15 ans, il m'envoie un email. Et il n'a pas ouvert une boucherie ni une boulangerie, il a ouvert un magasin de musique. Dieu, il a déjà prévu à l'avance tout ce dont on a besoin. Est-ce qu'on peut lever nos mains? Mes amis, repartez de ce lieu. Repartez de ce lieu avec une parole de Dieu. Que vous pouvez recevoir même en mangeant tout à l'heure, en faisant la sieste, pendant l'atelier peut-être. Peut-être pendant que je parlais, vous avez reçu une parole de Dieu. Et vous allez jeter cette bombe en rentrant chez vous, ok? Si Dieu vous conduit à faire une offrande particulière ce soir, faites-le. Si vous n'êtes pas conduit à ça, et que vous le faites juste pour faire comme tout le monde, non, ce n'est pas l'idée. Mais recevez quelque chose de personnel de la part de Dieu. Ce que je voudrais vous dire, que si c'est vraiment Dieu qui vous parle, ça va quand même faire un peu mal. Ok? Ben, alors, une résistance de la chair. S'il n'y a pas de résistance de la chair, c'est que c'est un peu trop facile. Vous allez jeter votre bombe. C'est peut-être quelqu'un que Dieu vous a montré que vous devez bénir d'une manière particulière. Cette personne n'est peut-être pas là dans le camp, mais vous savez qu'en rentrant, vous allez devoir la bénir d'une manière particulière. Faire quelque chose de particulier pour cette personne. Quelque chose que vous n'avez jamais fait. Quelque chose qui va faire que ça va faire mal, mais quand vous allez vous lever, vous mettre devant la glace le matin, vous allez vous dire, je suis capable de faire ce genre de truc. Je ne suis pas une mauviette. Je suis un vaillant héros. Je suis un vaillant guerrier dans l'armée de l'Éternel. Alléluia.